Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Lisée, journaliste, écrivain et homme politique. Jean-François Lisée, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Ça va?
Ça va très bien, et vous?
Extrêmement bien. Je pense que je vais lever une hypothèque, Jean-François. Je vais nous tutoyer. C'est le choix que je fais parce que certains le savent peut-être parmi nos auditeurs. Et pour la prochaine heure, moi, je me sentirais mal de faire semblant ou de faire comme si. Il se trouve que ça fait 40 ans qu'on se connaît.
40 ans déjà. Hey, ça nous rajeunit pas. Surtout toi.
Ça me rajeunit effectivement pas. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai vieilli précocement. Donc aujourd'hui, on se rend plus compte de ce que je suis vieux. Mais si tu es d'accord avec cette convention,
absolument,
je pense qu'elle est plus confortable.
Stéphane.
Pour te présenter, je dirais d'abord que tu es né à Thetford Mines en 1958, une ville minière. Est-ce que ça a de l'importance ou c'est anecdotique dans le parcours que de venir de Thetford Mines?
Ah, mais c'est très important parce que Thetford Mines m'a vraiment façonné. D'abord, c'est une ville qui est très syndicale. C'était à l'époque, avec Sept-Îles, une des deux villes les plus syndiquées au Canada. Donc, on avait une vie syndicale très forte. Mes premières armes en journalisme, c'est couvrir une grève de l'amiante. Pas la grève historique de 49, mais une grève qui a eu lieu en 73 sur des questions de santé et sécurité. Et même si j'étais pas fils de mineur, j'étais fils d'entrepreneur, d'épicier.
Tu ne devais pas être particulièrement syndicaliste, lui, par contre.
Non, non, mais l'épicerie était syndiquée.
Parce qu'il aimait ça?
Et je voulais absolument passer, travailler à la mine. Pour moi, c'était essentiel de travailler à la mine. Alors, un été, j'ai travaillé à la mine d'amiante dans le moulin où on faisait de l'ensachage de fibres d'amiante, ce qui serait aujourd'hui complètement illégal. Les conditions de santé et sécurité dans lesquelles on le faisait. Et on balayait de la poussière d'amiante. J'ai passé un été à balayer de la poussière d'amiante sur les poutres très, très, très en haut. J'ai failli me tuer une couple de fois.
À quel âge?
Je devais 16-17 ans. Et puis c'est ça, pour moi, c'était essentiel d'avoir une connaissance de la condition ouvrière. Évidemment, je lisais Germinal de Zola.
Mais j'allais dire, pour faire un Zola de toi un jour.
Exact. Donc, c'est ça. J'ai fait ça. Oui.
Donc, après ces expériences, donc qui sont certainement formatrices, tu vas étudier en droit à l'Université du Québec à Montréal, où tu rencontres plusieurs professeurs, et c'est ce qui fait qu'on se connaît, puisque un de ceux-ci a été mon père.
Excellent prof. Je te dis, Robert Bureau était un excellent prof.
Ben, je suis heureux de l'entendre, et lui, où qu'il soit aujourd'hui, j'espère qu'il en est heureux. Passage en France, déterminant, parce que ça ne sera pas le droit qui sera ta carrière, ça va être le journalisme qui s'impose. De 85 à 89, tu es correspondant à Washington pour la presse. En 90, tu es de retour avec un livre qui est pour beaucoup façonné par ces années américaines, Dans l'œil de l'aigle, où tu t'intéresses à ce que les Américains pensaient de l'aventure souverainiste, indépendantiste du Québec ou sécessionniste, ce qui leur fait probablement davantage peur. 94, deux livres importants qui sont aussi un peu comme des pamphlets, Le tricheur et Le naufrageur. Tu as été conseiller politique pour M. Parizeau et Bouchard, élu député du Parti québécois en 2012, réélu en 2014, ministre, chef du parti et enfin chef des faits. Tu t'intéresses beaucoup.
Et à travers ça, quand même, il y a eu une période, un hiatus entre ma période de conseiller de M. Parizeau et Bouchard et d'élu au Parti québécois en 2012, c'est la cofondation du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, qui est un de mes beaux bébés, avec mes enfants, c'est un de mes beaux bébés, le CERIUM, où j'ai travaillé pendant 8 ans.
Et d'ailleurs, dans ta biographie que tu signes toi-même, qui fait 3 bonnes pages, tu termines avec une ligne en disant « Et je suis surtout aussi le papa de 5 enfants ».
Exact.
Mais c'est sibyllin. C'est une ligne l'ensemble d'une vie.
C'est mon jardin secret, OK? Mais ça a une importance énorme dans ma vie, énorme, mais c'est mon jardin secret.
Est-ce qu'il était important que ça demeure un jardin secret compte tenu des choix que tu as faits?
Oui. Oui, par exemple, on n'a jamais vu mes enfants en photo, même si parfois ils m'ont accompagné. Je dis au journaliste, je dis, regarde, non, je ne veux pas que cette photo-là soit utilisée. Ma fille Marianne, à partir de 16 ans, donc elle acceptait de venir à certains événements avec moi. Donc, on a été pris en photo, par exemple, sur le tapis rouge de la disque, des trucs comme ça. Ça l'amusait beaucoup. Mais sinon, effectivement, j'ai pris la décision, avec leur mère d'ailleurs, parce qu'ils ont deux mères, de les retirer de l'espace public. Voilà.
Est-ce que ça a déjà été discuté ou négocié avec eux? Parce qu'évidemment, ils ont eu l'âge à un moment donné d'avoir une opinion.
Oui, mais à partir de 14 ans, par exemple, je leur disais, si vous voulez venir avec moi à un événement, il y aura des journalistes. Et à ce moment-là, ils le décidaient.
Je sais que c'est une décision, la paternité, que tu as repoussée, parce qu'au départ, quand on s'est connus, et c'est ma vérité aussi, moi, je ne voulais pas d'enfant. Mm-hmm. Je pense que tu n'en voulais pas non plus. Or, quand tu t'es mis à en faire, tu en as fait 5.
Oui. j'y ai pris goût. C'est vrai que c'était tardif. Et puis, donc, je les ai eus après 40 ans.
Mais est-ce que tu percevais à ce moment-là, avant de vouloir fonder une famille, puis je ne rentrerai pas dans les détails intimes de l'arbitrage entre un homme et une femme qui veulent des enfants ou pas, mais est-ce que c'était un obstacle sur la vie que tu voulais te faire? Parce qu'elle a toujours été super planifiée, ta vie.
C'est-à-dire, elle n'était pas planifiée. J'avais une bonne idée de ce que je voulais faire. Et à mesure que je faisais une chose, je me disais, je voudrais faire l'autre chose. Donc, je ne savais pas au début quelles seraient toutes les étapes. Mais j'avais un rapport difficile avec mon père. Et mon père est décédé quand j'avais 36 ans. Et donc, ça a levé une hypothèque sur ce que c'était que la paternité puis du rapport avec le père. Et lorsque j'ai eu des enfants, les deux premiers, la première, puis ensuite le deuxième, j'ai vu le bonheur que ça m'apportait. Et c'était irrépressible, j'en voulais d'autres. Bon. Donc, c'est venu tard. Mmh. Et dans la séquence, effectivement, le décès de mon père a comme libéré chez moi la volonté de paternité.
Sais-tu qu'est-ce que ça a libéré?
Je le sais, mais je te le dirai pas aujourd'hui.
Ça a été dur que de s'exposer à ça? Puis c'est pas une façon de te reposer la question, parce que je pense qu'en périphérie, il y a quelque chose qu'on peut aborder sans rentrer dans le détail, c'est-à-dire jusqu'à quel point c'était une hypothèque, donc lourd sur tes épaules.
Oui. Prochaine question.
C'est du jardin secret?
Oui.
Mais ça t'a façonné, alors?
Absolument, ça m'a façonné. Puis en même temps, je suis très content de les avoir eus tard. Parce que...
Là, on parle de tes enfants et non pas de l'enfant que tu as été pour
exact.
Ton père. Mais c'est drôle parce qu'avant qu'on se voie ce matin, ça fait 24 heures que je médite notre rencontre, puis je me disais comment on pourrait faire en sorte que la conversation ne porte pas sur ce qu'il fait avec brio, c'est-à-dire l'intelligence, répondre avec, des fois avec facétie quand ça fait
bien
son
sûr,
affaire.
Bien sûr, je suis un peu cabotin, je sais.
Oui, ou sinon, très intelligemment, on peut se perdre dans les détails. Donc, comment visiter la face nord, moins exposée au soleil, de Jean-François, qu'il n'expose peut-être pas à lui-même, pour lui-même.
c'est ça, c'est ton défi.
C'est pas un défi, parce qu'il n'y aura pas de gagnant, de perdant. C'était ma curiosité. Ouais. Comment on accède à ce que tu n'exposes pas?
Alors, il y a une partie de cette... disons que j'ai eu un parcours émotif où, du fait de ma relation avec mon père en particulier, j'étais émotivement très fermé. Et il a fallu que je réapprenne à m'ouvrir, à devenir vulnérable, à parler. Il y a un grand bout de temps où je ne parlais pas, où je n'exprimais pas mes émotions. Je gardais ça à l'interne.
C'est deux choses, ne pas parler, ne pas exprimer ses émotions.
Ouais, donc, je parlais beaucoup, mais pas de mes émotions. Bon. Et puis ça, j'ai dû réapprendre ça. Puis effectivement, avoir des enfants, ça ouvre tes canaux émotifs de façon extraordinaire. Et tu deviens une meilleure personne, une personne plus atteignable. Parce qu'il faut que l'enfant voit que tu es présent, tu es ouvert, tu es bon. Et donc, dans ce parcours-là, effectivement, puis je dirais même en politique, c'est pas normal de frapper à toutes les portes, puis de se présenter, puis de dire « votez pour moi ». C'est pas normal d'aborder des gens à la sortie d'un supermarché pour essayer de leur expliquer. Ça prend un contact émotif. Il faut que tu t'ouvres à ça. C'est un muscle qu'on développe.
Mais est-ce que c'est une décision cérébrale et quasi opportuniste? Puis je le dis avec sourire
au visage.
Tu peux
pas bien le faire si c'est juste cérébral.
Mais au départ, est-ce que c'est ça la décision? C'est de dire, OK, il faut que je comprenne comment ça marche.
Non. Je suppose qu'il le faut parce que ensuite, je l'ai expliqué à plusieurs de mes candidats qui le faisait, d'après moi, de façon trop cérébrale, puis qui faisait un discours au monsieur ou à la dame avec, à la sortie du supermarché. Il faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu établisses un contact émotif. Il faut que tu montres que tu es disponible. Puis dans la conversation, les deux tiers, c'est que tu poses des questions puis tu écoutes. Si tu veux que le tiers où tu vends ton argument ait un impact. Alors, ça, c'est... J'aurais pas pu faire ça correctement si j'avais pas eu cette expérience de m'ouvrir, de parler, de devenir émotivement plus connecté. Puis je dis ça, puis je sais qu'il y a des auditeurs qui vont dire, ben voyons donc, s'il y a quelqu'un qui a pas l'air connecté émotivement, c'est bien lisé. Puis effectivement, c'est parce que j'ai pas réussi à 100%, mais si vous m'aviez vu avant, vous verriez l'amélioration considérable.
C'est donc un enjeu. C'est de se dire, intellectuellement, il faut que je débloque quelque chose.
Ah oui, mais mes blondes me le disaient, là. Tu sais, je veux dire, oui, j'étais...
Ah, tes amis aussi, je suis certain.
Mes amis, mes blondes me le disaient, il faut débloquer, il faut parler, il faut s'exprimer. Puis je sais que dans la trentaine, un peu dans la vingtaine, puis dans la trentaine, j'ai fait un effort pour être plus vivable, pour être plus... voilà.
Plus vivable plus par vivable. Opposition à pas vivable?
À pas vivable. Oui, oui, non, mais il y a un moment où j'étais... J'étais complètement... je veux dire, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur aussi, c'est que, bon, j'ai commencé jeune, comme toi, puis j'avais l'air plus jeune que j'étais. Mm-hmm. Donc, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Ça fait que ma réaction, c'était, ben, je vais vous démontrer qu'il faut que vous me preniez au sérieux, OK? Et ça, c'est très désagréable, parce que ça fait de toi quelqu'un qui est en train de se vanter, puis qui est prétentieux. Puis bon, par exemple, un jour, j'avais réussi à passer un article dans le New York Times, ce qui est extraordinaire. Mais tu pouvais pas me rencontrer sans que je te le dise dans les trois premières minutes de
là,
la conversation.
Là, on a quand même attendu 10 minutes avant de retourner à l'article du New York Times.
C'est encore.
La preuve que puis, tu t'es intéressé aux questions un
c'est
peu.
C'est ça. Et puis, les gens qui avaient l'amitié suffisante me disait, regarde, tu gagnes à être connu parce qu'au début, tu es vraiment tête à claque. Puis je veux dire, bon, il y a des gens qui pensent que je le suis toujours, là, puis je comprends ça, mais je l'étais davantage. Et il y a un événement qui m'a baissé le volume, disons, de mon de ce travers, c'est quand j'ai publié mon premier bouquin « Dans l'œil de l'aigle », qui a été, donc, en 90... C'était un best-seller. J'ai gagné le prix du gouverneur général. Et puis là, tout le monde était content pour moi. Mais moi, j'ai vécu un genre de dépression post-partum.
Je me souviens assez bien, d'ailleurs.
Ah oui? Et puis, je me disais, bon, les gens vont penser que je suis capable de le refaire. Mais je ne suis pas capable de le refaire. C'est un accident. J'ai commencé à écrire ce livre-là. Puis là, j'ai été pris comme dans un second souffle et puis j'ai réussi à faire ça. Mais et puis je me dis, le livre parle trop fort pour moi. Ce livre-là est au-dessus de mes forces. Je pourrais pas le refaire. Et c'est seulement quand j'ai écrit Le Tricheur, qui est aussi ambitieux dans sa portée, que j'ai dit, ah, ben je peux le refaire.
Mm-hmm. C'est
mais,
pas une erreur.
Mais j'ai pas besoin de me vanter parce qu'ils existent. T'es.
Tu sais, le poncif, facile en circonstance, c'est de dire donc hyper performant parce que totalement insécure.
Non, j'ai jamais été très insécure.
Non. T'as toujours su?
Je me souviens, pour moi et mes amis à l'école secondaire de Thetford, on allait réussir. Tu sais, c'était pas... On n'avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de conditionnel. On allait réussir, on ne savait pas exactement quoi, comment. Alors, mais au début, là, ma liste, c'était « je veux quoi ». Bon, je veux être journaliste étranger. Je veux être correspondant étranger, c'est sûr.
Il y avait une liste.
Oui, il y avait une liste au début. Alors, c'était Tintin et Bob Moran m'avaient montré que c'était extraordinaire de voyager dans le monde.
Deux Belges, Henri Verne et Hergé.
Exact. Je voulais interviewer Carole Laure. Ça, c'était très important au début des années 70. Carole Laure était la femme idéalisée de tous les jeunes Québécois.
Donc, c'est un fantasme avant même d'être une quête journalistique.
Oui, oui, absolument. Donc, j'ai fait ça. J'ai interviewé Carole Laure. Je voulais écrire dans le journal Le Monde. Et ça, donc, quand j'ai...
À quel âge?
Ben, moi, à partir de... Disons que cette liste-là, elle s'est faite lorsque j'avais 20 ans, peut-être. OK. Okay? Alors là, quand je suis allé en France, j'ai fait le cours de journalisme à rue du Louvre. J'avais un prof qui était au Monde, puis j'ai réussi à placer un texte dans Le Monde.
Check.
Alors ça, c'était check. Je voulais écrire sur la CIA. Ça, c'était très important à l'époque, le CIA était bon. Et là, dans l'œil de l'aigle...
Et je comprends tellement. J'ai l'envie de le faire.
Ah oui, oui, oui. J'ai écrit sur la CIA.
Parce qu'on a été élevés avec les trois jours du Condor.
Exact. Et puis, et d'ailleurs, je reviens sur ce thème dans un livre que je vais publier cet automne, qui va s'appeler « Guerre froide PQ, la CIA et le KGB face à l'énigme québécoise bon. ». Donc ça, c'était ma liste à ce moment-là.
Vendre mon prochain livre, check.
Check, c'est ça. Alors, ça, c'était ma liste. Alors, sont ajoutés ensuite à ma liste être conseiller politique. Lorsque j'étais correspondant à Washington, couvrir une campagne présidentielle. Ça, c'était important. Ça, j'ai fait ça quand j'étais à Washington. Puis une fois que j'étais à Washington, j'ai beaucoup écrit sur les conseillers politiques des présidents. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça être conseiller politique et faire la souveraineté du Québec. Ça, c'est ma liste complète. Là. On est à 8 points. J'ai couvert une campagne présidentielle, j'ai été conseiller. Tout ce qui me reste à faire, finalement, c'est de contribuer à l'indépendance du Québec.
Mais justement, ce projet d'être conseiller politique, quand tu reviens au Québec avec l'œil de l'aigle et éventuellement la fabrication, parce que c'est vraiment un processus de fabrication que sont ces deux gros livres, Le Tricheur et Le Naufrageur, est-ce que ça pointe à l'horizon ou tu es encore parfaitement journaliste?
Je suis parfaitement journaliste transparent. OK? Dans Le Tricheur, dans Le Naufrageur, comme ce sont des livres sur ce qui s'est produit entre l'échec de l'accord du lac Meech et l'échec de Charlottetown, la tentative de... c'est un livre sur la transparence et l'honnêteté. Parce que je dis, Robert Bourassa n'a pas été honnête.
Je t'arrête là-dessus. Oui? Parce que ça me semble important. Transparence et honnêteté.
Oui.
Le jour où tu t'es présenté devant Robert Bourassa pour faire ton pitch.
Oui.
Pour le convaincre.
Oui.
D'accepter de collaborer. Non seulement de collaborer, mais d'insister pour que ses conseillers à lui collaborent.
Oui.
Je pense entre autres à Jean-Claude Rivet, qui était son bras droit, et qui était plutôt réfractaire, et qui ne te faisait pas naturellement confiance.
Oui, normal, je suis journaliste.
Alors, comment as-tu fait le pitch? Si on était ensemble 30 ans plus tard.
Oui, en fait, je l'ai fait par écrit. Alors, je savais que Bourassa avait lu dans l'œil de l'aigle, puis il me semble qu'il aurait dû comprendre en lisant ça que j'étais quand même... Mon héros, c'était René Lévesque, c'était pas Pierre Trudeau. Mais il avait aimé ça. Et là, j'ai dit...
Donc ça, c'était suffisant pour faire la supposition que Robert Bourassa, en entendant ta demande, devait savoir que tu étais aussi probablement intéressé par la souveraineté.
Oui. Je pense que ça... On lit le livre, là, puis on voit ça, tu sais. Bon. Et je lui ai dit, M. Bourassa, là, il venait de dire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, rien n'est écarté pour l'avenir du Québec, sauf le statu quo et l'annexion aux États-Unis. Donc, l'indépendance n'est pas écartée. Je lui ai écrit une lettre en lui disant, M. Bourassa, vous allez faire l'histoire. Soit vous allez modifier significativement la place du Québec dans le Canada, soit vous allez faire l'indépendance du Québec. Je voudrais... vous interviewez vos principaux adjoints pendant ce processus, jusqu'à la fin de ce processus, et publier par la suite. Il accepte, peut-être 2-3 semaines après.
Sur la foi d'une lettre?
Sur la foi d'une lettre.
Aucune rencontre?
Aucune rencontre. Puis au début, il pense faire l'histoire. Donc, il dit, il va avoir un bon livre qui va être écrit sur moi. C'est ça, c'est toujours le pari qu'ils font au début. Dans une des premières rencontres avec lui, puis là, on est à l'été 90. Donc, on est dans les préliminaires et le congrès des jeunes libéraux avec Michel Bissonnette, qui est maintenant votre patron à Radio-Canada, et Mario Dumont, eux, ils veulent que le Parti libéral devienne indépendantiste. Et il y a ce congrès et ils affirment ça. Et là, Bourassa essaie de tempérer leur ardeur. Et là, dans une entrevue téléphonique qu'il me donne, il dit « Là, j'ai des problèmes avec mon aile jeunesse. » Je dis « Pourquoi? » Ben, ils sont vraiment partis pour la souveraineté.
Il faut les brider.
Il faut que je contienne ça. Puis là, je ne comprends pas ce qu'il me dit parce qu'il donne des signaux que c'est une des pistes possibles. C'est une des deux pistes possibles. Alors, pourquoi est-ce qu'il trouve que c'est problématique alors qu'il peut avoir ces deux fers au feu et que la stratégie officielle, c'est on va menacer le Canada anglais de faire l'indépendance afin qu'il nous donne l'autonomie dont on a besoin au sein du Canada. Donc, il faut que la menace existe. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il était réticent à l'existence de cette menace, puis ce qui va être le drame de son conseiller Jean-Claude Rivet, qui, lui, croit à la nécessité de la menace, puis voit son premier ministre saboter constamment la menace et donc pense qu'on n'aura rien en retour. Il n'était pas très ferme dans sa volonté de brandir une menace.
Mm-hmm. Est-ce que c'est un acte manqué de la part de M. Bourassa que d'avoir accepté, lui, qui était si précautionneux et qui savait bien manipuler les gens autour de lui, puis je dis manipuler sciemment, est-ce que c'est un acte manqué que de vous avoir fait confiance, parce que c'est ce qu'il a fait, il a fait confiance, et non seulement il vous a fait confiance, mais il a demandé à ceux qui résistaient de vous faire confiance.
Oui, à certains d'entre eux, pas tous. Lorsqu'il a lu les deux tomes, évidemment, il disait, je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, j'aime pas les titres, puis la conclusion. Donc lui, lorsqu'il dit le jour de sa démission en 96, j'ai assumé le destin du Québec, ça veut dire j'ai pris sur moi de décider à la place des Québécois parce que si je les avais laissés faire, ils auraient commis la bêtise de faire l'indépendance. Je les ai sauvés de leur bêtise.
Mais c'est pas comme ça qu'il dit les choses.
Non, il dit, enfin la citation, c'est « j'ai assumé le destin du Québec ».
Oui, on peut lire beaucoup de choses, parce que vous projetez sur l'écran de vos propres ambitions politiques, peut-être fantasmes, ce qu'aurait dû faire, tu vois, dans le registre officiel, t'es devenu une personnalité en dehors de...
Non, mais je suis pas d'accord avec toi, parce que sa volonté, elle est claire, elle est assumée. Tu sais, lorsqu'il a dit au début du processus « le Québec est libre de ses choix », c'était pas vrai. Le Québec n'était pas libre. Robert Bourassa était libre de choisir pour le Québec et d'assumer le choix du Québec. Et il savait très bien que s'il avait laissé faire, les Québécois auraient commis cette bêtise de faire l'indépendance. Et je pense que... Non, j'en suis absolument certain.
Mais c'est de la politique fiction.
C'est pas de la politique fiction. Je veux dire, il y a 1200 pages de démonstration.
Non, la politique fiction, c'est d'être certain que les Québécois, au moment, auraient choisi la souveraineté.
Ah, ben, il le dit lui-même. Il le dit lui-même en entrevue. Si j'avais fait le référendum en 91, on aurait eu 56% de oui. T'sais? Alors, c'est sa lecture à lui. Donc, dans sa tête à lui, si je les laisse faire, ils vont dire oui. Puis là, ça va être la catastrophe.
C'est un beau lapsus, hein? Okay? C'est sa lecture à oui.
Ah oui. Alors, pour répondre à la question d'origine, je suis certain qu'il était tellement convaincu de la justesse de son attitude qu'il pensait que le journaliste à qui il allait se confier allait conclure comme lui qu'il avait bien fait de sauver le Québec de ce genre d'éruption juvénile qui l'aurait conduit à commettre une bêtise. Et donc il était surpris de voir que malgré ma connaissance du dossier...
Les conclusions étaient différentes. À quel moment, pendant la rédaction et la préparation, tu t'es dit que tu jouerais un rôle plus actif dans l'histoire du Québec? Parce que la question est importante, surtout pour les Rivets et autres conseillers qui diront, ben c'est plutôt un procès à charge qu'il nous fait. On reproche effectivement rien aux journalistes que bien colliger les faits, mais l'interprétation, sa plaidoirie est celle d'un partisan.
Les lecteurs jugeront. Moi, je pense que la preuve, elle est là. Hein.
Mais la question étant, à quel moment dans le processus, tu décides, toi, que tu jouerais un rôle actif?
D'abord, c'est une époque où, pendant que j'écris le livre, donc c'est de 92 et 93 et jusqu'au printemps 94, donc ce travail-là, je suis aussi commentateur et donc j'interviens assez souvent sur les ondes. Et là, j'ai des offres pour être en politique. La première offre que j'ai pour être en politique, c'est de Denis Coderre, qui me dit que Jean Chrétien veut avoir des jeunes, puis que moi, je devrais venir au Parti libéral du Canada.
OK.
Bon, ma deuxième
offre... Donc, Jean Chrétien...
Alors, c'est Denis Coderre. Oui, je ne dis pas que c'est Jean Chrétien, Denis Coderre.
Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, Coderre et Chrétien ont eu une conversation à ton sujet, se disant, voici un jeune nationaliste qui pourrait être utile au Parti libéral du Canada?
Je ne sais pas, mais je sais que Denis, lui, trouvait que je serais une bonne recrue.
Hey, ça sert à quoi d'être journaliste si on ne va pas au fond d'une information comme celle-là?
Tu le demanderas à M. Chrétien quand tu le verras. Ensuite, c'est le directeur général du Parti libéral, Pierre Anctil, que j'interviewais pour le livre, qui me dit, ben, tu ferais un bon candidat pour le Parti libéral. Bon, puis moi, à ces offres-là, je dis, écoutez, là, je suis en train d'écrire un livre pour le reste.
Mais tu sais que c'est impossible de toute façon, puisque tu as déjà eu une carte du PQ, je pense.
Oui.
Et que tu es clairement
Vous savez qu'il y a plein d'anciens péquistes dans ces partis-là. Hein.
Oui.
Puis il y a des ministres, puis ben, des gens en très haute position qui ont déjà eu leur carte du PQ.
Tu sais à quelle enseigne tu loges.
Moi, je sais que je suis fidèle à mes convictions. Mais eux présument que les gens ne sont pas fidèles à leurs convictions, puis ils en recrutent énormément. Il y a énormément. Écoute, c'est incroyable.
Tu as le sourire en coin parce que tu sais que c'est un peu cheap shot ce que tu viens de dire.
Non, c'est la réalité. C'est la réalité.
Non, c'est parce que c'est un procès d'opportunisme que tu fais en ce moment.
Non, les gens ont le droit de changer d'avis ou les gens ont le droit de décider que même si je suis au PQ ou j'ai... il m'offre une vraie carrière au Parti libéral.
Donc, c'est plus fort que la vocation de sa conviction.
Absolument. Enfin, oui. Écoute, nous, à chaque cycle électoral, il y a des gens qui, tout à coup, deviennent candidats libéraux, dont on sait qu'ils étaient 6 mois avant des péquistes. On le sait. Bon.
Donc, une carrière plutôt qu'un pays.
Oui. Ben, et puis, ils font leur choix, puis ils font leur arbitrage. Tu sais. Bon. Mais, et donc, c'est normal qu'on offre à des gens, à des péquistes, de devenir libéral. Puis, il y en a qui disent non. Puis, il y en a qui disent oui. Alors, moi, c'était non. Puis, il y a Louise Beaudoin qui allait se présenter aussi, qui dit, en tout cas, si on est élu, parce qu'à ce moment-là, les sondages montraient assez clairement que le PQ allait être élu à l'élection de 94, je voudrais que tu viennes travailler dans mon cabinet. Alors, je donnais la même réponse qu'aux autres. Je disais, je suis en train d'écrire un livre. À la fin de la rédaction, puis moi, dans le livre, je dis que je suis souverainiste, parce que c'est un livre sur l'honnêteté, puis même, il y a tout un bout qui m'a valu beaucoup d'inimitié.
Mais tu n'as pas dit ça à M. Bourassa pendant le processus. Tu n'as pas rappelé à M. Bourassa, parce qu'au départ, tu dis qu'il aurait dû comprendre s'il avait bien lu dans l'œil de l'aigle.
Oui, il ne m'a pas posé la question non plus.
Non, parce que tu comprends que l'enjeu, c'est de décider si oui ou non, ces gens-là avaient affaire à un pamphlétaire. Ben, et je reproche rien au travail journalistique, car ben, de toute façon, tout le monde s'entend là-dessus.
Il savait que beaucoup de journalistes sont souverainistes, plus à ce moment-là que maintenant. Puis il regardait la qualité du travail. Et d'ailleurs, les dernières entrevues que Bourassa me donne, j'ai publié mon bouquin « Les prétendants » sur la course au leadership du Parti libéral. Bourassa l'a lu et dit « c'est pas hostile ». Ce n'est pas hostile à des gens autour de lui. Je pense à John Parisella qui dit comment c'est quand même bon. Il dit, regardez, j'ai lu. T'sais, il est capable de faire quelque chose qui est...
Lui, t'aura traité d'hypocrite à l'époque, Parisella.
Oui, après, parce que je suis devenu conseiller de monsieur. Puis là, il y a un jeu de communication politique qui se fait aussi pour essayer de démonétiser le fait que je devienne conseiller de Parisot et que donc, rétrospectivement, tout ce que j'ai écrit avant... ne peut plus être crédible. Ça faisait leur affaire de dire ça. Ça fait partie du jeu politique.
As-tu à un moment pensé trahir la confiance des gens qui t'avaient fait ces confidences? Moi, je me serais posé la question. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu fausse représentation ou impression de fausse représentation? Est-ce qu'une fois, une minute dans ta vie, tu t'arrêtais en disant « Ah! »
Non, mais je me suis dit, ils sont dans le trouble, là, parce qu'ils se contredisent. Et ça m'est revenu qu'ils le savaient. Parce qu'au début, donc, par exemple, Jean-Claude Rivet... lui croit absolument à la stratégie. On fait vraiment semblant de vouloir faire l'indépendance pour avoir des pouvoirs. Et là, son patron constamment détruit sa stratégie. C'est qu'il y a d'ailleurs des citations de Jean-Claude qui sont très équivoques. Et puis, quand son patron, Robert, a lu ça, il n'a pas dû être content, mais c'est parce qu'il n'était pas content de son patron. Puis, il me le disait. Et puis, à un moment donné, ils changent complètement de position. Puis là, ils deviennent anti-indépendantistes à l'intérieur de leur parti. Puis je sais que ça me revient que Rivet dit dans les salons, dans les soupers, on ne sait plus quoi faire avec le livre de Lisée. Parce qu'ils se contredisent. Parce qu'ils ont pris des engagements, puis ils brisent chacun de leurs engagements. Alors, je les comprends, mais moi...
À titre personnel?
J'ai de la peine pour eux.
Non, mais vraiment,
parce qu'on développe... Tu sais, je veux dire, quand tu as passé 50 heures, évidemment, tu développes l'empathie avec ces gens-là, évidemment. Et c'est au moment où j'ai écrit le livre que je suis devenu en tabarnak. Parce que là, remettant ensemble l'ensemble de la preuve, au début, ça ne s'appelait pas le tricheur. C'est quand j'ai mis ensemble l'ensemble de la preuve, et une des dernières choses que j'ai faites, c'était de parler à 4 premiers ministres du Canada anglais, qui m'ont dit ce que Bourassa leur avait dit très tôt, que tout ce qu'il disait au Québec, c'était pour la galerie, puis que ce qu'il leur disait à lui, c'était la vérité, puis qu'en aucun cas, il allait brandir cette menace, que j'ai vu l'ampleur du mensonge et de la triche.
Et c'est donc dire que l'instruction de l'affaire s'est faite une fois que tu as lié les éléments de preuve que tu ne soupçonnais pas au départ.
C'est quelques centaines d'heures d'entrevues, des milliers de documents. C'est au moment de l'écriture que l'émotion vient.
Ouais. Il y en a eu?
Oui, il y a des moments où je suis en train d'écrire. Tu sais, donc j'ai comme 10 sources qui me disent ce qui se passe dans une réunion. Puis j'ai Bourassa qui me dit le contraire.
As-tu déjà eu peur, puis tu vas me dire, je t'arrête en pleine foulée, mais as-tu déjà eu peur, toi, d'être démasqué pour ce que tu aurais dit en réunion comme conseiller et que tu sois placé en face de ta médecine et de contradictions?
Je veux dire, c'est tellement pas moi que non, j'ai aucune crainte.
C'est journée de rentrée parlementaire et puis on va voir vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À part Batman et Spider-Man, là, tous ceux qui ont des raisons religieuses pourront avoir le visage couvert. Si on souligne les 150 ans du Parti libéral, ben soulignons-les avec les points de beauté et les verrues.
Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité Jean-François Lisée, journaliste, écrivain et homme politique, sur Ici, Radio-Canada Première. Tu as fait le pari récemment, puis on ne s'éloignera pas de ces années importantes 90, de raconter l'histoire du Québec dans l'œil de grands personnages, De Gaulle, Kennedy. La CIA et le KGB, ce ne sont pas de grands personnages, mais peut-être de grandes institutions. C'est donc dire que tu penses que les acteurs ont un rôle déterminant dans le cours de l'histoire.
Oui.
On vient de parler d'un grand acteur ici. Je dis grand acteur au sens de la place qu'il a occupée, M. Bourassa.
Bien sûr.
Pensais-tu que M. Parizeau serait le grand acteur de l'histoire du Québec?
Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu être son conseiller. Il y a la conjoncture et la volonté. Alors, donc, dans les conditions de 94, il y avait des conditions réunies pour que l'indépendance puisse se faire. Et Jacques Parizeau était l'homme qui pouvait le faire. Et sans Jacques Parizeau, probablement que le référendum n'aurait pas eu lieu. Parce qu'il y avait beaucoup de forces, dont Lucien Bouchard, qui considéraient que c'était trop risqué et qu'il ne fallait pas le tenter. Et donc, oui, il a forcé l'histoire. Il a donné un résultat qui a montré qu'on était à quelques millimètres de la réalisation du projet. Mais oui, j'avais cette estime pour M. Parizeau.
Et donc, c'est dire que l'homme de l'histoire, dans ton œil, c'est davantage M. Parizeau que M. Bouchard.
Oui. Ben, M. Bouchard aurait pu faire l'histoire après.
Mais très tôt, apparemment. Il y avait des réserves qui faisaient que dans l'œil du conseiller que tu étais, il ne serait pas l'homme de l'histoire.
Parizeau était l'homme de l'histoire à ce moment-là, ayant quitté M. Bouchard dans l'année qui a suivi, en 96, il y avait la conjoncture, c'est-à-dire une majorité de Québécois auraient voté oui, et là, il manquait la volonté. Et à la décharge de M. Bouchard, alors moi, je lui disais, on a un an. Après un an, on va avoir perdu la fenêtre, il faut le faire maintenant.
Tu étais prêt, tu recommandais à ce qu'on reparte à la guerre dans l'année
après. Ah oui, non, mais le lendemain de 95, je sentais qu'on avait mis le Canada en déséquilibre, qu'il allait se remettre. C'était le moment de retourner parce que la majorité des Québécois maintenant était à 56% disaient on veut voter oui. On n'avait pas eu ça dans l'année précédente, le référendum de 95. Et une majorité de Québécois voulait un deuxième référendum, un match revanche. Et à la décharge de M. Bouchard, il y a un moment...
C'était un troisième, ceci étant dit.
Exact. M. Bouchard, il y a un moment où il consulte son conseil des ministres, son caucus et le bureau du Parti québécois. Lui, voulait d'abord faire une élection rapide pour retrouver le droit de faire un référendum. Il aurait pu le faire quand même. En tout cas, c'était sa stratégie. Et il voit une très grande résistance dans le parti et au caucus et au conseil des ministres. Et il décide de ne pas forcer le jeu. Il a senti que sa position dans le parti n'était pas assez solide pour forcer le jeu. Elle l'était. C'était l'homme le plus populaire au Québec à l'époque. Et vous lui demanderez, si vous voyez, s'il regrette de ne pas l'avoir fait.
On lui a justement parlé il n'y a pas très longtemps. Notre équipe, oui, tout à fait. Et more to come. Jean-François, notre patron respectif, quelqu'un que nous avons beaucoup admiré, que nous admirons encore beaucoup, Jean Paré, le patron respectif à l'actualité, mm-hmm. a déjà dit de toi que dans le fond, ton destin, c'était d'être le premier président du Québec. Il a dit en souriant. L'as-tu déjà vraiment pensé? Et si tu l'avais pensé, pourrais-tu même le dire ou ça aurait l'air trop arrogant?
Ça m'est venu très tard et par défaut.
Donc, tu y as pensé?
Ben là, quand j'ai été chef du Parti québécois, je voulais devenir premier
mais
ministre.
Mais avant ça?
Non, pas avant ça. Avant ça, je voulais être dans l'équipe qui allait faire l'indépendance. Je voulais être conseiller de M. Parizeau. Même l'offre de conseil que je lui fais, c'est pas du tout le rôle que j'ai joué, finalement, qui était plus important que ce que je pensais.
Oui, mais tu demandes, quand tu négocies avec M. Parizeau, à être présent au Conseil des ministres.
Oui.
Or, il n'y a pas, dans l'histoire, probablement, beaucoup de conseillers qui ont...
Toujours une couple.
Qui ont demandé à être présent.
Il y en a toujours une coupe.
Oui,
c'est ça. Qui ont demandé une condition, je ne sais pas.
Mais regarde-toi le sourire.
Peut-être pas. Non, mais est-ce que je suis audacieux? Oui. Est-ce que je connais mon rapport de force? Oui. Est-ce que je suis capable de négocier? Oui. Puis là, je sentais que j'avais un rapport de force. Je voyais bien que Parizeau voulait m'avoir comme conseiller. Son chef de cabinet, Royer, m'avait dit, tu ne viendras pas au Conseil des ministres. Et au moment de faire l'entrevue d'embauche, j'y avais déjà écrit son discours depuis 2 jours. J'étais bénévole puis était très content de ce que j'avais fait.
Et c'était donc le bon moment pour lui dire « by the way,
si vous voulez, je demande exactement le salaire que j'avais avant. Et puis, donc, j'ai pas besoin d'augmentation ni rien. Mais ce que je veux, c'est être dans toutes les réunions de communication et de stratégie sur la souveraineté. » Et être présent au Conseil des ministres. Bien sûr. Là, mon Royer à côté, il est vraiment pas content. Mais c'était ça. C'était mes demandes.
Parce que l'information, c'est le pouvoir.
Oui.
Et Royer comprend ça.
Oui.
Et que d'être présent à la table du Conseil des ministres, c'est pas la même chose que de se faire dire ce qui s'est passé.
Exact.
On est parti avec cette question plus personnelle, qui est celle, non pas de l'ambition, quoique ça peut être une affaire d'ambition aussi, être le premier président de la République du Québec.
Oui.
Est-ce que notre patron de l'époque, Paré, avait tort quand il soupçonnait ça?
Oui, il avait tort lorsqu'il le disait. Moi, je voulais être conseiller politique. Je voulais être membre de l'équipe. Je voulais être présent à la naissance. C'était ça. J'avais encore un peu...
Très présent.
Oui.
Avec un peu de la lumière quand même du spot.
Un réflexe de journaliste. De journalistes de solution, hein, comme on dit maintenant, qui est présent, qui veut participer, qui veut contribuer. Puis c'était tout. Moi, Parizeau allait faire la souveraineté, puis j'allais faire autre chose après. T'sais, ma liste aurait été complète. Mmh. Et puis comme ça ne s'est pas passé comme ça, ensuite je suis allé faire autre chose, donc le Cerium, que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ces années-là. Ma curiosité intellectuelle était complètement... Et ma fibre entrepreneuriale, parce que c'était comme une petite entreprise, je gérais 1 million de dollars de budget, il fallait que je trouve des revenus, on a monté des écoles d'été, bon, tout ça, j'ai fait...
Merci papa, l'entrepreneur de la famille.
Oui, merci papa, absolument. Et il aurait été fier de moi, là, j'aurais aimé ça qu'il voit ça, là, bon.
Il l'a jamais été avant?
Oui, il l'était, mais... pas comme dans l'entreprise, parce qu'il aurait voulu que je sois avec lui dans ses entreprises. Et puis moi, j'ai choisi autre chose. Mais là, il se serait vu en moi comme entrepreneur. Quoi qu'il en soit, donc là, je suis conseiller, je fais le Cerium. Là, Mme Marois veut que je me présente à une partielle. Je dis non. Gilles Duceppe m'appelle constamment pour que je me présente pour le bloc. Je me souviens, je suis dans mon bureau, puis je dis, Gilles, j'entre dans un tunnel. OK? Parce que je voulais qu'il arrête de me proposer à chaque élection fédérale. Il y en avait beaucoup.
Mais je comprends quand même que les libéraux avaient fini d'appeler.
Ah non, les libéraux ont fini d'appeler, ça c'est clair. Et puis ensuite, bon, à l'élection de 2012, il y avait même un débat. Est-ce que si Pauline était élue première ministre, est-ce que je devenais son conseiller ou si j'étais candidat? Et j'ai décidé d'être candidat pour 2 raisons. D'abord parce que je trouvais que ce que faisait Jean Charest d'utiliser la grève étudiante et la violence comme un argument de réélection était tellement affreux qu'il fallait que je sois sur la barricade à faire le combat contre ça, donc à être visible. Puis je pensais aussi que compte tenu des expériences passées, je serais vu comme un conseiller c'était pas ma place d'être conseiller à ce moment-là de mon parcours. T'sais. Alors donc, là, je suis devenu député, on m'a nommé ministre, je voulais faire la souveraineté avec Pauline, ça ne s'est pas présenté.
As-tu craint, puisqu'on parle du rôle de député, qui est quand même fondamental, ça commence là, as-tu craint à un moment donné que pour tout ce que tu peux imaginer qui fait que l'adéquation ne marcherait pas avec les gens à la sortie de l'épicerie ou du métro, ça serait difficile?
Non, parce que Rosemont était à l'époque un bon comté pour le Parti québécois. Alors je disais, même si je suis mauvais, ce qui est possible, probablement qu'on va garder le comté.
Et pensais-tu que tu serais un mauvais candidat? Ton instinct, qui est capable de te juger et de dire, OK, il y a des affaires où je suis pas mal bon, d'autres moins.
Ben, j'avais développé, quand tu es journaliste de terrain, aborder des inconnus pour leur parler puis leur tirer des informations, ça devient un muscle. Alors je me suis dit, ça doit pas être si différent comme candidat qui va rencontrer les gens.
Il y a vraiment comme une espèce de définition de la tâche que tu fais en amont.
Oui.
Tu dis, OK, je suis capable de faire ça, je vais essayer.
Et puis même, ça devenait un peu... Moi, je suis très gamin aussi. C'est un aspect de ma personnalité. Puis donc, je me donnais des défis. Je disais, je suis sur le trottoir, sur la rue Masson, puis je vais aborder la personne qui a l'air la moins prédisposée dans le profilage politique à être pour moi. Puis je vais y parler pour voir ce que ça donne. Je me souviens en particulier d'un gars qui avait l'air d'un Hells Angels. Il était pas un Hells Angels, mais en tout cas, il avait l'air d'un Hells Angels. Puis je dis, bonjour monsieur, je suis candidat du Parti québécois, etc. Ah, il dit, t'es québécois? Je dis oui. Ah, je vote pour toi. Ben là, tu vois, il faut parler à tout le monde.
Encore une fois, le cabotin l'emporte.
Oui, oui.
Mais de doute sur la capacité à connecter, pour faire simple.
Ben oui, j'ai toujours ce doute-là, puis j'y travaille toujours. Et puis, et donc, j'ai décidé de faire très régulièrement des journées sans rendez-vous, où les gens se présentent. Puis c'est un genre de confessionnal, puis ils ont chacun 10-15 minutes. Puis j'ai adoré ça. Puis les gens disaient, hey, la capacité d'écoute, puis il nous a écoutés, puis il a réglé mon problème. Il y a des problèmes qu'on peut régler facilement. Il y en a qui sont insolubles. Puis bon, c'est comme si ce côté de moi sur lequel je travaille depuis la vingtaine et la trentaine était mis au profit des citoyens de Rosemont, puis de l'élection, de mon projet politique. Puis je suis capable de faire ça.
Et à ce moment-là, pendant que tu commences à t'intéresser aux autres, ton destin de... Ben non, mais c'est exactement ce que tu viens de me dire. Oui ou non?
Ben, je veux dire, être journaliste, c'est s'intéresser aux autres.
Différemment. Est-ce que ce possible destin de président...
Bon, alors non, encore là, moi, je veux que Pauline fasse l'indépendance du Québec. Et puis c'est seulement...
Et quand tu le dis, tu y crois.
Oui.
Parce que déjà, tout le monde dit, si Lizzie revient, tu te rappelles.
Quoi?
Ben, tout le monde se dit...
Ah oui, ben oui, ils disent ça. Puis je remercie Serge Chapelot de m'avoir montré en grand seigneur, puis en évêque, puis en tout ça, tu sais, je veux dire, bon...
T'as pas aimé ça?
J'aime les caricatures, etc., mais je sais que ça a contribué à renforcer dans le public l'idée que j'étais un prétentieux, c'est clair. Puis ça, c'est une idée contre laquelle je me bats, donc ça n'a pas aidé.
L'as-tu déjà été?
Je l'ai compris, oui, je te l'ai dit, je l'étais, j'étais avant.
Mais
c'est fini la prétention. Mais donc, c'est seulement après, c'est la première fois où j'ai pensé me présenter à la direction du PQ, donc devenir premier ministre de l'indépendance, c'est après la démission de Pauline. C'est jamais arrivé avant.
Mais quand vous êtes tous ensemble, amis et pas toujours amis, au Conseil des ministres et ailleurs, cette idée que tu es un prétendant, cette idée que tu es celui que dessine Chapelot, mm-hmm. Est-ce que ça te nuit avec tes camarades?
On est bien trop occupés.
Vraiment?
Ah, c'est incroyable. Là, c'est inimaginable.
Pour oublier son ambition?
Ben, je veux dire, regarde, il y avait Bernard Drinville qui était là, dont on pensait qu'il voulait se présenter à la chefferie, puis il y en avait une couple d'autres qui pouvaient avoir des prétentions. On est trop occupé, on n'est pas là-dedans, ça va venir un jour. C'est pas, je veux dire, le gars qui se préparait sous Parizeau puis Bouchard, c'était Bernard Landry qui organisait des groupes puis tout ça. On le voyait faire. C'est jamais arrivé sous Pauline Marois. Je veux dire, il n'y a personne qui s'est mis à faire des groupes parce qu'on était trop occupés. Puis, je veux dire, là, c'était Pauline qui était là, puis on espérait qu'elle la fasse, puis c'est tout.
Le gouvernement se défend d'être embarrassé par la sortie de Jacques Parizeau, qui souhaite un débat sur la gratuité par ailleurs.
Monsieur Parizeau, il a toujours le don d'intervenir dans un moment crucial du débat national.
Justin Trudeau n'était pas encore arrivé à Québec que déjà deux ministres péquistes s'en prenaient à lui.
Tel un jeune prince descendant d'Ottawa pour rencontrer ceux qui pourraient être ses sujets, il voulait que les trois chefs de parti au Québec s'organisent leur horaire pour le rencontrer lui.
Et ensuite, après avoir soumis ça au débat il y a 10 ans, Je me suis dit, dans la balance des inconvénients, non, tu poses une question, écoute la réponse.
Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité Jean-François Lisée, journaliste, écrivain et homme politique, sur Ici, Radio-Canada Première. Pour paraphraser le président Sarkozy, à quel moment t'es-tu regardé dans la glace en disant que tu serais... lui, il se rasait apparemment quand il s'est dit qu'il serait président. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, OK, ça pourrait être mon destin, je l'assume et ça m'intéresse? Sincèrement.
Ben, je cherche dans ma tête. Après la démission de Pauline, il a fallu... Ah oui, je me souviens, oui, je me suis... Ben, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, il faut que tu te présentes. Puis là, je me dis, bon, je pourrais me présenter, mais là, Pierre-Carl allait être là, donc ça allait être très compliqué. Puis, je me disais, bon, en fait, je me suis présenté, j'ai décidé d'y aller lors d'un lunch parce qu'il y a quelqu'un que j'estimais énormément qui m'a dit, je vais être là pour toi. Je vais être là pour toi, je vais diriger ta campagne, puis ensuite, je vais être chef de cabinet.
Ça faisait la différence.
Ça faisait la différence.
C'est-à-dire, par-delà tes certitudes sur toi-même.
C'est-à-dire que, il fallait que j'ai... puis trois semaines après, cette personne-là est disparue du portrait. Mais elle avait joué son rôle.
De déclencheur.
De déclencheur, oui. J'étais pas tout seul, tu sais, je me disais, c'était pas le manque de volonté, mais c'était, est-ce que je vais y arriver? Puis là aussi, cette personne-là croyait en moi davantage que moi. Tu sais, j'étais comme surpris d'entendre.
Se peut-il que quelqu'un ait davantage confiance en moi que moi?
Beaucoup, beaucoup. Mais en fait, ça m'a toujours renversé. Puis là, cette personne-là disait, il faut que ce soit toi. Il faut absolument que ce soit toi, puis je vais travailler pour toi. Puis ça, en fait, venant de l'extérieur. Mais je veux dire, Stéphane, ça m'a renversé. Dans la deuxième campagne au leadership, celle que j'ai gagnée, tu sais, quand on m'a dit, il y a 500 personnes au Québec qui sont en train de faire des appels de sortie de vote pour t'aider, mais c'est qui ça? Je les ai vus parce que je les ai rencontrés, puis c'est des militants, mais j'en reviens pas qu'il y ait 500 personnes qui soient en train de donner leur temps puis qui croient assez en moi pour faire ça. Vraiment, je suis très flatté de ça.
Ah,
je suis étonné.
Ému.
Ça. Ému
de, tu sais...
Ben ça m'émeut. Oui. Ça, il y a quelque chose. J'ai des papillons quand j'entends ça. Je dis, j'en reviens pas, tu sais.
Mais peux-tu imaginer qu'il y a des gens qui n'en reviennent pas, que tu puisses avoir des papillons? Non, pas... Et c'est pas un reproche que
non,
je te fais
ben
du,
non,
tout,
mais
du tout, parce que t'es apparemment imparable.
Je suis conscient de ça, ben oui, je suis conscient.
C'est un avantage que d'être apparemment imparable ou finalement, au finish, un gros
non,
désavantage?
C'est un désavantage. C'était des avantages. Les gens veulent avoir des leaders, évidemment, qui savent où ils vont, où ils sont forts, mais avec lesquels ils peuvent avoir un lien émotif. Mmh. Ils veulent avoir un lien émotif avec... C'était le grand problème de Philippe Couillard, que les gens n'avaient aucun lien émotif avec lui. Le grand avantage de Lucien Bouchard. Les gens avaient René Lévesque aussi. Les gens ont un lien émotif avec François Legault. Ils se voient dans François Legault beaucoup plus. Et moi, je sais que j'ai pas suffisamment mes émotions sur mon visage pour que ça passe autant. Ça veut pas dire que les émotions sont pas là. Et parfois, bien sûr, parfois je suis très ému.
On a presque commencé sur une absence de réponse quand on parlait de cette hypothèque qui s'est levée de tes épaules quand à 36 ans, ton père est mort et que tu as pu contempler la paternité. Mm-hmm. Est-ce qu'il se peut que ce soit aussi le nœud gordien qui fasse que tu n'as pas été le leader que tu aurais espéré être, aux yeux de ceux qui ont à se prononcer?
Non. Je pense que là, ça aurait été mieux, évidemment, que je sois plus émotif puis que le lien se fasse mieux. Mais la campagne au leadership que j'ai gagnée puis la campagne électorale que j'ai perdue, dans les deux cas, les gens ont gagné à me connaître et on voyait nos sondages quotidiens que plus ça avançait, plus les gens m'estimaient, moi personnellement. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient se débarrasser des libéraux, puis c'était la CAQ qui pouvait se débarrasser des libéraux, puis il n'y avait pas grand-chose qu'on puisse dire pour leur faire changer d'avis. Alors je pense que là, la conjoncture était plus importante que les personnes.
Que les individus.
J'admets qu'une autre personne que moi aurait peut-être mieux fait. Je doute qu'une autre personne que moi ait gagné cette élection.
Je pense que je t'ai posé la question la dernière fois qu'on s'est vu, mais puisqu'on parlait d'émotion. Moi, j'ai un souvenir très vif du 30 octobre 1995. Je suis sur une espèce d'estrade. Je couvre la soirée pour TVA. Et on ne s'est pas parlé cette journée-là. Moi, j'avais vu M. Parizeau. Et je t'ai vu derrière moi, hagard, sonné. Peut-être ému, je ne sais pas. Mais vous preniez la mesure collectivement dans votre groupe que c'était... échappé par peu. Est-ce que c'est le plus grand moment d'émotion politique de ta vie?
Ben, c'était un grand moment d'émotion parce qu'il faut dire que... bon,
plus que perdre les élections comme chef, en fait.
Oui, 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 plus. Là, on avait travaillé comme des malades. On était fiers de notre campagne. On avait fait une remontée remarquable. On était tout proche du but. Là, on venait de gérer M. Parizeau, qui était en colère avant son discours. Puis là, ça avait pris... Je l'avais comme contredit, puis j'avais écrit des notes, puis donc, tu sais, j'avais...
Vraiment la colère?
Oui, il était en colère, oui, bien sûr. Et contre cette défaite qui faisait en sorte que tous les sacrifices qu'il avait rendus à la cause n'étaient pas... n'avaient servi à rien. Hein? C'était ça qui l'animait, plutôt que le progrès qu'on avait accompli. Et donc, tu sais, la pression sur moi avait été très forte. Alors, je descends en attendant l'arrivée de M. Parizeau. Et là, je suis dans la foule. Et puis là, bon, je suis correct. Puis là, il y a une militante que je ne connais pas qui me dit « Monsieur Lisée, vous avez tellement bien fait ça. On vous félicite. » Et là, je suis en larmes parce que m'ayant parlé au niveau émotif, c'est-à-dire m'ayant fait un compliment, elle a comme ouvert ma vanne émotive qui était « j'en peux plus là, de la pression qu'on vient de vivre, des événements qu'on vient de vivre ». Alors là, effectivement, il y a un moment où c'est trop, ça ne dure pas longtemps, là, parce qu'ensuite, il faut que j'aille rejoindre M. Parizeau derrière la scène. Mais ça, je me souviens de ça, très, très, très clairement, oui.
Les émotions de la vie politique, dans le registre des émotions, parce que c'est ce mot-là que tu as choisi tout à l'heure, comment elles sont comparées aux émotions de la vie privée du jardin secret qu'on a commencé par aborder en début d'entretien?
Ben, ça n'a rien à voir, parce que la relation avec les enfants, il y a une pureté, il y a une naïveté, il y a une immédiateté, c'est pas cérébral, tu sais, c'est vraiment, on est sur le nerf émotif lui-même. Les émotions politiques, elles sont au-dessus de toute une pyramide de convictions, de stratégies, de contingences, d'informations, de relations humaines et de réalisations ou d'échecs. Alors, tu sais, on est loin du nerf émotif, c'est pas la même chose, c'est intéressant aussi, mais pas aussi intéressant que la relation qu'on peut avoir avec un enfant.
Vous êtes, tu es heureux aujourd'hui?
Oui. J'ai pas fini ma liste. Ça va être un
manque. C'est quoi le dernier check?
Contribuer à l'indépendance du Québec.
Président?
Ben, pas président. C'était plus que les autres le font pas, je vais essayer de le faire. Mais là, si quelqu'un d'autre veut le faire, puis que je peux aider, évidemment que je serai là. Parce que tant que le dernier truc de la liste sera pas fait, il va y avoir un manque.
Fait qu'il manque une case à cocher.
Une case à cocher.
Pour le reste, tu pourrais mourir tranquille.
J'ai dit à mes enfants que je serais là au moins jusqu'à 120 ans parce que je veux garder leurs petits-enfants. Ça, c'est une autre liste, plus importante encore.
Jean-François, merci beaucoup.